Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Il y a une abeille.
Mais alors, c'est sympa une abeille.
Mais ça pique une abeille.
Mais non, c'est sympa. Puis en plus, ça fabrique du miel. Oh, c'est malin, tu l'as chassé. Allez, Marcel, suis l'abeille.
Dardard.
Oui, bon, bah, on n'aura pas résisté à l'envie de commencer par un petit Fred et Jamy avec leurs blagues et leur générique de malade. Bon, vous aurez compris qu'on va vous parler des abeilles. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Alors aujourd'hui, parce qu'on a passé 15 jours à se gaver comme des oies gavées, de truffes aux acides gras saturés et de fruits de mer avariés, eh ben on vous propose une petite émission tout en légèreté. Alors installez-vous tranquillement dans vos canapés, on va vous parler des insectes et plus particulièrement de nos amis les abeilles. Alors, le sujet est léger, mais l'heure est grave. Ou plutôt, l'époque est grave, puisque l'alarme semble sonner depuis si longtemps qu'on ne l'entend plus. Pas plus que l'odeur de cramé pourtant tenace, ni que l'on ne voit le reflet des flammes qui gagnent pourtant la cage d'escalier. Pensez donc. La dernière alerte en date, nous annonçant que 80% des espèces d'insectes avaient disparu en Europe en 30 ans, n'aura pas tenu deux jours avant d'être emportée par le flot de l'actualité des catastrophes. Alors dans Zoom Écologie, on s'est dit qu'on allait prendre le temps pour discuter du sujet et essayer de comprendre les mécanismes sociotechniques présidant à cette catastrophe et surtout les moyens que le capitalisme a développés pour ne pas se laisser engloutir par son propre désastre. Alors pour ce faire, on a invité deux historiens et anthropologues du Centre Alexandre Guéret qui sont Léna Humbert et Robin Munier. Qui donc ont travaillé sur les questions agricoles au XXe siècle. Peut-être justement on peut commencer par ça, c'est que l'alerte est relativement ancienne, et alors si on devait faire un petit parallèle avec le climat, qui est que d'année en année, de rapport en rapport, il y a toujours une annonce que ce sera pire que prévu, et ça va d'année en année comme ça, on va dire le climat depuis les années 80-90, Or, là, il me semble que c'est plus ancien encore. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans les têtes, pour ceux qui sont habitués au sujet, il y a donc au moins Rachel Carson en 62 avec Printemps silencieux. Mais peut-être même, il y a des alertes qui sont plus anciennes. Et c'est un sujet, ça fait bien un demi-siècle, si je m'abuse.
Bah oui, on pense qu'on peut estimer que déjà, depuis 1945, en fait, il y a des alertes. Même on pourrait remonter encore plus loin parce que l'usage des toxiques en agriculture est fait depuis la fin du 19e siècle avec l'arsenic, où il y a déjà des apiculteurs qui se rendent compte que les abeilles meurent à la suite de traitements aux arsenicaux. Mais vraiment, le moment où ça commence à être de plus en plus problématique et où c'est généralisé, l'inquiétude monte et se généralise, c'est vraiment juste après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1946, au moment où en fait les insecticides de synthèse arrivent dans les champs français. Donc les insecticides de synthèse, c'est une nouveauté de la guerre, puisque c'est des molécules qui sont synthétisées en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais. Et qui sont utilisées essentiellement par l'armée américaine pour éliminer les moustiques, ouais. En fait.
Attends, donc ça bon, on va y revenir un peu plus tard, mais donc pour revenir, ce qui semble, c'est que en tout cas dès les débuts des applications de ces produits-là, il y a des alertes, quoi.
Oui.
Dès le début. Quoi.
Dès le début, les apiculteurs se rendent compte que ça tue les abeilles.
Et toi, tu dis, il y a Robin, qu'il y a aussi quelque chose qui peut être même qu'on peut remonter en fait à quasiment un siècle si on prend d'autres éléments de l'agriculture.
Bah du moins, c'est ce que disait Léna, quoi. Moi, ce que j'ai vu déjà dès les années 30, on dit qu'il y a les abeilles. Dès les années 30, on va critiquer les bouillies toxiques qui sont répandues en arboriculture. Et même au tout début, vers les années 1890, à partir du moment où on commence à mettre en place une gestion rationalisée de la pollinisation dans les vergers, on est conscient que si on fait ça avec les abeilles, c'est parce que tout le reste des pollinisateurs sauvages, à cause des monocultures, à cause des traitements, est en train de s'effondrer. Donc en fait, les abeilles vont arriver en masse dans les vergers pour prendre la place. Donc vraiment, c'est le basculement au XXe siècle pour prendre la place des autres insectes dont on a clairement conscience et dont on sait qu'ils sont en baisse assez ouais. massive.
Donc, ce qui est, donc le premier truc là, c'est que donc, ces alertes, elles sont donc très précoces en fait. Elles ne sont pas du tout contemporaines, comme on pourrait le croire, ou du moins comme pourraient le laisser penser les alertes récurrentes comme ça. Mais ce que tu dis là en plus, c'est que les abeilles sont d'une certaine façon déjà presque un premier substitut en vérité de ce déclin d'un certain nombre d'insectes en fait.
Ouais, exactement, ouais. C'est clairement pensé comme ça, c'est prévu comme un substitut très pratique, puisque en fait à l'époque c'est clairement le seul insecte qu'on peut déjà élever, dont on sait, on connaît l'élevage et dont on peut déplacer. Enfin, c'est un outil utile, quoi, parce que facilement maniable.
Parce qu'en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que dans la nature, on pourrait dire, l'abeille n'a pas du tout le monopole de la pollinisation, en vérité.
Non, bah, juste en France, il y a quasiment 1000 espèces de pollinisateurs. Ouais. Mais par contre, l'abeille est quand même présente massivement avec l'apiculture.
D'accord, ouais. Alors, peut-être... Si on marque cette précocité du déclin des pollinisateurs en France, en Europe et on va dire en Occident en général, il y a peut-être plusieurs raisons à ça et qui sont dues notamment on va dire, à la modernisation de l'agriculture qui a lieu à ce moment-là. De ce que j'ai compris, de ce que vous m'avez dit, il y a deux raisons. Alors peut-être faut le remettre d'abord dans le contexte de la révolution agricole qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et comme tu le disais, là, en Amérique du Nord, il y a un schéma tout à fait particulier qui est celui de la perpétuation d'une économie de guerre.
Ouais. Oui, comme je le disais, du coup, les Américains, en fait, eux, ont déjà depuis plusieurs décennies mis en place une agriculture productiviste. Donc, ils utilisent notamment les engrais en des quantités astronomiques qui ont été, eux, synthétisés pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, un peu avant la Première Guerre mondiale. Et là, ils se mettent à développer pendant la guerre une industrie chimique donc, de synthèse du chlore. Donc, par les entreprises qui sont notamment Monsanto et Dow Chemicals et d'autres grandes entreprises qui sont déjà les mêmes que.
Qui sont les mêmes que maintenant, en fait.
Que maintenant. Ouais. Et en fait, ce qu'on peut estimer, c'est que cette économie. En fait, en gros, oui. Je reprends. Les États-Unis vont faire face au problème du paludisme et de la malaria pendant dans les terrains de guerre du Pacifique. Et du coup, vont faire un peu un contrat. Ils vont passer un contrat avec les industries chimiques qui va être que les industries chimiques vont faire un effort, vont multiplier leur effort de guerre pour permettre d'apporter à l'armée américaine des remèdes pour les soldats. Et du coup, notamment celui de tuer les moustiques. En échange de quoi, à la fin de la guerre, parce qu'ils savent très bien que ça va arriver, c'est signé dans les années, je crois que c'est 43 ou 44, donc ils savent que c'est la fin de la guerre. En échange de quoi, du coup, ils s'assurent, ils veulent être assurés d'avoir un marché dans l'agriculture en temps de paix.
D'accord, ouais. Et ce qui fait que dès la fin de la guerre, cet effort de guerre est basculé du côté de l'agriculture.
Tout à fait, ouais. Ouais. Et je pense que même aux États-Unis, ça doit même commencer juste avant même l'armistice. Je pense qu'en 44, il y a déjà des champs qui doivent être traités aux États-Unis.
Ouais, d'accord. Ok.
Au moins des essais. Ouais.
Et si on regarde cette fois du côté de l'Europe, c'est un peu différent, mais d'une certaine façon, la continuité avec la guerre, elle est quand même assez, assez visible.
Ouais, tout à fait. Bah, déjà, parce qu'il y a des échanges de savoir, notamment parce que la chimie allemande, bah, qui va être évidemment démantelée à la fin de la guerre, raison des forces d'accointance entre le nazisme et la chimie, notamment des grandes firmes comme IG Farben, vont être éclatées. Et en fait, on va avoir plein de chimistes qui vont passer, je pense... Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aux États-Unis, mais j'imagine qu'il y en a qui viennent en France aussi. Du coup, il y a des échanges de formules et de molécules. Et les industries chimiques françaises, qui sont elles publiques à l'époque, vont sauter sur l'occasion et synthétiser aussi les produits.
Et là, ce qu'on voit, c'est que les acteurs de ce moment-là, qui sont les grands chimistes, que ce soit allemands et français, sont, comme aux États-Unis, les mêmes que maintenant encore.
Ouais,
en Allemagne, tu disais, c'est que cette grosse firme qui est démantelée, elle donne les géants de l'industrie qu'on connaît maintenant. En fait.
Ouais,
c'est
Bayer, notamment Bayer, Bayer, Syngenta, je ne les ai pas tous en tête, mais au moins Bayer.
Et qui existe encore.
Qui existe toujours, ouais, bien sûr. Et maintenant, qui ont fusionné entre Monsanto et Bayer. Enfin, ouais. Je pense qu'on peut voir une stabilité vraiment depuis 50, 70 ans de géants en fait de l'industrie à la fois publique et privée, mais enfin c'est en France c'était public et c'est devenu privé, c'était les mêmes logiques aussi de fusion en fait de géants, en fait c'est des géants qui fusionnent qui sont des fois démantelés comme à la fin de la guerre en Allemagne, mais qui vont après refusionner ensemble entre eux et qui ont une énorme puissance économique.
Bien sûr, ouais. Et pour le cas français, ce que tu disais, que cette fois, c'est plutôt une industrie d'État, contrairement aux États-Unis où c'est des industriels privés.
Tout à fait, ouais. Au moins jusque dans les années 80, 70-80, je pense que ça dépend des firmes, je n'étais pas non plus tout en tête, mais l'essentiel des grosses firmes sont privées. Après, ça, il y a des firmes d'État. Après, il y a aussi, dans la fabrication des chimiques, je pense des engrais, des pesticides, notamment des bouillies arsenicales qui sont utilisées avant les insecticides de synthèse. Il y a beaucoup de petites firmes aussi qui font ça un peu dans leur coin, de petites firmes locales, mais qui vont disparaître très rapidement.
Ouais. Et qui vont être dépassées par la puissance des gros lobbies industriels. Et cette fois, on s'intéresse un peu plus aux produits eux-mêmes, on peut voir aussi une certaine continuité aussi vis-à-vis de ces efforts de guerre. C'est-à-dire que là, tu parlais du fait que Monsanto avait rebasculé le produit contre les moustiques, contre la malaria, dans l'industrie agricole américaine. Et tu dis qu'ils échangent des formules. Alors du coup, c'est quoi ces formules ? Là, tu dis au début, c'est de l'arsenic. Et après, on passe à des choses qu'on connaît maintenant sous le nom de DDT, sous différents produits. Est-ce que tu peux nous dire un peu là, ce qu'il en est de ces produits ? Quels sont ces nouveaux produits, un peu, là, d'où ils viennent ?
Alors, ces nouveaux produits, en fait, ils viennent essentiellement de la synthèse du chlore, enfin, en premier, mais en fait, c'est surtout de la chimie de synthèse qui se développe essentiellement à la fin du 19e siècle, en fait. Et en fait, qui sont, de prime abord, on ne sait pas du tout à quoi ils peuvent servir. Enfin, les chimistes se rendent compte qu'on peut modifier à ce point-là les molécules et ils ne savent pas du tout quelles applications on peut en faire. Et c'est vraiment souvent des hasards, en fait, qu'on se rend compte que ça tue, d'une part, les hommes. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, la chimie du chlore, elle va être utilisée pour toutes les armes, genre gaz moutarde, gaz sarin, etc.
Ce qu'on appelle les gazochlores.
Les gazochlores. Voilà. Et après, du coup, ils se disent, si ça tue les humains, ça doit pouvoir tuer aussi les insectes. Et ils font des essais et ça marche. Il y a un truc comme ça.
Faut quand même avoir le cerveau tordu. Enfin, c'est dire qu'on va utiliser ce qui tue les humains pour les insectes. En les répandant sur les cultures qu'on va manger après.
En étant persuadé que ce n'est pas dangereux pour les humains.
Pour les humains, alors même que ça servait à ça au début. En vrai, c'est des renversements assez énormes en termes.
Puis on voit la contradiction, elle se double même. Enfin, en tout cas, pour le cas des États-Unis, on voit qu'ils ont clairement conscience qu'après la guerre, ils vont rapatrier ça. Et pourtant, alors je ne sais plus si c'est en 1944 ou en 1946, mais le département, enfin le ministère de l'Agriculture américain, va publier un texte assez court qui pose la question de savoir si, dans le contexte de la guerre, le pays est en danger par déficit de pollinisation. Est-ce que, par les insectes qui meurent, on n'aurait pas des problèmes agricoles qui pourraient causer un collapse de tout le pays, quoi.
Ça, c'est quand, ça, tu dis ?
Je ne sais plus si c'est 44 ou 46.
Ouais, d'accord. Donc, encore une fois, c'est juste à ce moment
c'est exactement
de la guerre,
à ce moment-là. Donc, ils ont clairement conscience et ils posent la question. Enfin, pour eux, c'est... On sait qu'on a déjà qu'on utilise des insecticides assez massivement. On sait qu'on a les populations d'insectes sauvages qui meurent. Donc pour eux, c'est un danger. Et pourtant, ça ne les empêche pas de passer des contrats avec les grandes firmes pour un usage en agriculture des produits utilisés pour la guerre au départ. Ouais. Quoi.
Oui, parce qu'aux États-Unis aussi, il faut savoir que c'est... Contrairement au même moment en France, donc à la fin de la guerre, il y a déjà des énormes consortiums d'apiculteurs qui font que de la pollinisation, qui mettent des ruches chez les arbres, vraiment en masse. Ce qu'on n'a pas du tout en France, pour le coup. En France, ça commence à arriver un peu, mais c'est très minoritaire encore.
Oui, de toute façon, dans ces affaires-là, ils ont toujours eu au moins 15 ans d'avance sur les pollinisations françaises. Alors, justement, si les alarmes, elles sont si précoces, on pourrait dire, c'est qu'en fait, ces produits sont extrêmement efficaces. Enfin, c'est bon, évidemment, donc, on pourrait dire que c'est logique, c'est des produits de guerre. Du coup, il y a une certaine logique dans la chose. Mais c'est que toi, Léna, ce que tu disais, c'est que
À partir du moment où on utilise ces nouveaux produits en Europe et notamment en France, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des alertes. On se rend compte qu'il y a un problème.
Ouais, bah en fait, c'est des produits qu'on appelle à large spectre. Donc en fait, en gros, ils tuent tous les insectes qui sont dans les champs à ce moment-là. Et donc, ils sont extrêmement efficaces. Hein. Effectivement, il n'y a plus rien, y a plus rien sur les plantes à partir du moment où on a épandu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, en fait, ça crée évidemment des déséquilibres. Du coup, on a besoin encore plus de ces produits-là. Enfin, tu vois, il y a un truc où, de fait, il va y avoir du coup un insecte qui va quand même réussir à réapparaître.
Et qui, du coup, va être massivement présent.
Qui va être dans des proportions énormes. Enfin, j'ai lu des passages, j'ai vu des photos. Enfin, les plantes sont remplies d'insectes, effectivement. Et je pense que ça faisait très, très peur aussi. Et du coup, c'est vraiment la course contre la montre d'essayer de traiter. Ouais. Il y a un insecte qui va arriver, qui va devenir dominant parce que là moi j'étudie le colza, mais de fait il va y avoir des énormes étendues de colza, où il va y avoir un insecte qui va apparaître de ces déséquilibres écologiques, et du coup les gens traitent et ça tue les abeilles. Enfin, il y a un truc, ils peuvent pas s'en empêcher en même temps parce que sinon ils se font bouffer. Enfin,
c'est quoi du coup le problème, on peut dire s'il y en a un qui justifie à ce moment-là qu'on change quand même radicalement les pratiques agricoles. Alors, il faut quand même rappeler à ce moment-là qu'en sortie de la guerre, l'agriculture française, c'est encore une agriculture très peu mécanisée, sur des toutes petites surfaces, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec l'open field américain, à part peut-être pour les plaines céréalières autour du bassin parisien et dans le nord de la France. Mais sinon, on est encore sur une agriculture qui, si elle n'est pas vivrière, est en tout cas très localisée autour des fermes, polyculture, tout ça. Et là, c'est le moment où commence à se mécaniser et au-delà de ça, à se spécialiser peut-être aussi les pratiques agricoles qui peut-être justifient ces choses-là ou c'est autre chose ou est-ce que c'est des problèmes réels
C'est dégâts. C'est assez ambivalent parce qu'en fait, déjà, il y a eu la crise du doré-fort dans les années 30 qui a quand même beaucoup marqué les campagnes françaises puisque ça touche à la pomme de terre qui est quand même une culture vivrière de base en France dans l'entre-deux-guerres. Surtout après la Première Guerre mondiale, qui a quand même, je pense surtout à l'est de la France, mais qui a quand même attaqué beaucoup les terres agricoles. Mais au-delà de ça, et c'est intéressant de se dire que c'est pas juste après la guerre où on avait des crises de pénurie, des problèmes de rationnement en France, etc. En fait, la modernisation de l'agriculture, elle a été notamment énormément pensée sous Vichy. Et notamment le remembrement, c'est-à-dire la destruction des bocages et des petites parcelles au profit des grandes parcelles de la monoculture. En fait, ça a été signé, je crois, à partir de 1940, donc vraiment pendant la guerre. Et en fait, c'est au-delà de problèmes d'agriculture d'alimentation, c'est vraiment un problème politique. En fait, c'est une volonté vraiment scientiste de moderniser pour pouvoir plus grand, pour aller plus loin et même déjà pour être compétitif à l'échelle internationale.
Ouais. Bon, ça, pour le coup, on peut renvoyer les auditeurs au bouquin d'Yannick Ogor qui décrit l'industrialisation de l'agriculture en Bretagne, qui est clairement une volonté politique nationale et régionale. On parlera de ce livre a priori, il passe chez Michel Firk prochainement, on viendra avec un enregistreur. Donc voilà, vous pourrez voir de quoi on parle. Si on reprend ces questions-là, donc on s'aperçoit c'est que la première chose, contrairement à ce que on a comme grand récit qu'on parle souvent de cette modernisation gaulliste qui succéderait au plan Marshall des grands plans comme ça, en vérité c'est une continuité des programmes de Vichy, ça qui est quand même assez dingue. La modernisation, elle commence à ce moment-là quoi, avec des grands projets de mécanisation. D'où peut-être aussi le fait que dès 46 en fait c'est déjà des gros problèmes de désinsectisation qui posent des problèmes de pollinisation.
Ouais, parce qu'en fait le terrain est déjà préparé à la sortie de la guerre. Il y a déjà au niveau de l'État et des administrations du ministère de l'Agriculture, tout est déjà prêt. En fait, il y a un organisme qui est vachement important et vraiment sur la question des pesticides, je pense qu'il est assez essentiel en France, c'est le service de protection des végétaux qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui.
J'adore le nom.
Ouais. Merci, j'aime bien. Qui en fait s'est créé en 1943 avec pas mal notamment de relations avec les futurs chercheurs de l'INRA qui eux partent aux États-Unis faire un peu de qui vont voir comment ça se passe. Et en 1943 c'est créé et vraiment le principe de base c'est de développer développer des pesticides en France. Enfin, ce qui s'appelle encore les produits phytosanitaires, mais ça. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir tripler, voire quadrupler, voire quintupler l'utilisation des produits.
Et sachant que c'est, quand tu parlais de quintupler ou quoi, c'est qu'en fait, effectivement, il y a une course.
Ouais.
C'est que les insectes résistent au fur et à mesure aux produits qu'on utilise, ce qui implique alors, soit d'en changer, soit d'en mettre plus, soit de rechanger les pratiques. Enfin, c'est une course comme ça qui est intéressante.
Ouais, pas encore tout à fait
pas à, ce moment-là,
pas à partir de 1945. Par exemple, aux États-Unis, les premiers énormes problèmes de résistance qu'on a des insectes, donc du coup, en fait, c'est juste qu'ils traitent et que ça sert à rien, ou qu'ils doivent traiter plein de fois avec des produits de plus en plus dangereux. Ça apparaît vraiment, je crois, en 1950. Et du coup, en France, c'est plutôt, je pense, en 52-53, on a les premiers trucs, mais pas encore en 1946. En 1946, c'est de l'ordre du magique.
Oui, c'est ça,
C'est encore de l'ordre du magique.
Après, il faut effectivement le remettre dans l'imaginaire de l'époque, c'est qu'on est dans une agriculture extrêmement paysanne et arrivent des techniques où on survole un champ, soit par un tracteur qui est le nouvel arrivé, soit voire par hélicoptère, on déverse et à la fin, c'est table rase. Ouais. C'est incroyable quand même, en fait.
Et après, c'est quand même toujours étonnant de se dire qu'il y a des paysans encore, qui ne voient pas du tout l'intérêt de ça. Vraiment, à quoi ça peut bien servir. Et du coup, ça nécessite d'avoir quand même des administrateurs qui vont voir les paysans et qui leur expliquent comment il faut faire, quitte à utiliser des moyens plus ou moins répressifs qui vont de l'obligation. Enfin, ça va même jusqu'à l'obligation de traiter. En fait, il y a des moments où t'en as pas le droit de ne pas traiter. Si tu traites pas, du coup, tu te mets dans une situation.
C'est fou, ça date de quand, ça, ces obligations de traiter?
Là, on a des obligations sur le colza qui sont à partir de 1953, je crois. Début 50. Ça, on a des énormes parcelles où sur des cantons entiers, tout le monde est obligé de traiter à tel moment parce qu'en fait, c'est assez logique. Hein, s'ils échelonnent le traitement ou s'ils traitent pas tous avec le même produit, etc., en fait, ça tourne, l'insecte revient et ça sert à rien. C'est assez logique. Mais du coup. On a des surfaces qui sont traitées qui sont gigantesques.
Et donc, à ce moment-là, il commence à y avoir des apiculteurs qui gueulent à ce moment-là. Déjà, dès les années 46, tu dis
Dès 1946, donc dès le printemps 1946, parce que les traitements, c'est évidemment essentiellement au printemps. Les apiculteurs, par le biais notamment des syndicats, en fait, c'est une activité qui est extrêmement syndicalisée. En fait, ils vont se rendre compte que les traitements tuent les abeilles et tuent d'ailleurs assez massivement les abeilles. Quand on arrive dans un rucher et qu'on voit une ruche, c'est 50 000 abeilles presque, un peu moins, 30 000, 50 000 abeilles. Tu vois une ruche morte, c'est énorme. Je pense que ça fait un choc psychologique qui est très dur.
C'est quoi, c'est
dur.
Des poignées entières qu'on ramasse
C'est des poignées, c'est des tapis d'abeilles en fait par terre dans le rucher. Si c'est un rucher avec 10 ruches qui elles sont toutes mortes, ça fait un tapis. Et du coup, très vite, eux, ils vont essayer d'en parler, de faire remonter ça, notamment aux députés, aux maires, et qui sont aussi très sensibles à ça parce que l'apiculture, c'est quelque chose qui est très fréquent. Enfin, en France, il y a énormément de gens qui font ça, qui ont une ou deux ruches dans leur jardin comme revenu d'appoint. Souvent, en plus, des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus parce que ça évite de payer le sucre, par exemple. Surtout en temps de guerre où c'est quand même important. Et très vite, ils vont essayer donc de faire remonter leurs inquiétudes pour l'avenir de l'apiculture et l'avenir des abeilles. Du coup, très rapidement, en fait, l'État va saisir de ces contestations et de cette peur et faire des institutions où ils vont grouper à la fois agriculteurs, apiculteurs et services de l'État pour essayer de trouver une issue à...
Et ben, peut-être avant de passer à cette question de la gestion de la critique, on va dire, parce qu'il y a eu une critique à la deuxième moitié du XXe siècle, je vous propose, pour faire plaisir aux copines et aux copains, d'écouter la seule, l'unique Queen Bee.
Je sais pas, j'ai aucune idée du temps que ça...
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. grill, flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you. Swerving on that big body, been serving all this, swerve, surfing all in this good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that club. Drunk in love. Say so myself, if I do say so myself, if I do say so myself. Hold up, stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest bitch thus far. Talking about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this curve. Four plague in a foyer. Fucked up my Warhol. Slid the panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Box up like Mike, in 97 I bite, I'm Ike, turn up, baby, nah, I don't play, now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice, for y'all to reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight, we sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in, we be all night. Daddy, daddy, I want you. We be all.
Vous êtes toujours sur Fréquence Périphérielle sur 106.3 FM. C'est toujours Zoom Écologie et c'était Beyoncé avec Jay-Z, Drunk in Love. Bon, et bien donc avant cette superbe pause musicale, nous étions en train d'évoquer le fait qu'en détruisant les insectes qui, dans l'industrie agricole, enfin,
le début de l'industrie agricole à la moitié du XXe siècle, le problème se pose très rapidement qu'en tuant les insectes, on tue aussi les pollinisateurs. Or, on en a besoin, c'est tout problème. Et donc, les premiers à donner l'alerte, ce sont évidemment les apiculteurs qui ramassent donc des poignées entières de leurs abeilles dans leurs ruches qui sont décimées par les produits utilisés, qui sont alors les produits chlorés. Et donc, va s'en suivre une première critique de ces nouveaux produits, tout ça. Et là, en France, ce que tu dis, toi, Léna, c'est que l'État prend en charge les choses.
Ouais. Alors déjà, je voulais juste revenir sur un tout petit point, c'est qu'en fait, les apiculteurs, quand ils commencent à faire leurs alertes sur la mort des abeilles, jamais, et je pense que ça tient à l'état d'esprit des années 50, ils vont jamais, enfin des années 40-50, t'as une espèce de truc modernisateur, ils vont jamais appeler une interdiction totale des pesticides et des insecticides. Jamais, ils vont dire directement, il faut interdire parce que c'est trop dangereux, ça va tuer l'apiculture. Mais ils vont rester dans quelque chose d'assez consensuel, de trouver une solution avec les agriculteurs en disant toujours, on sait qu'ils en ont besoin, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour trouver des garde-fous un peu à cette, qu'on puisse faire les traitements et en même temps que les abeilles ne meurent pas. Et en fait, je pense qu'ils n'ont jamais pu, en fait, pu aller plus loin dans leur espèce de radicalité du propos. Ce dont l'État va aussi se servir, parce que du coup l'État va mettre en place, ce que je disais tout à l'heure, une institution, des espèces de groupes de réflexion, de commissions mixtes d'échange entre apiculteurs, agriculteurs et services de l'État, où il y a à la fois les gens du service de la protection des végétaux, donc comme je disais tout à l'heure, et aussi des gens de l'INRA. Donc l'INRA, c'est l'Institut de recherche agronomique qui est fondé en 1946 et qui est vraiment l'organe scientifique de modernisation de l'agriculture. C'est là où c'est décidé, il y a le côté génétique, de sélection des plantes, tout ce qui est engrais, tout ce qui est pesticides, vraiment l'agronomie telle qu'on la connaît, qui est encore celle d'aujourd'hui, hein, même si l'INRA essaie de se verdir un peu, c'est toujours les mêmes histoires. Et du coup, donc je reprends sur cette commission. En fait, l'État part du principe que il y a une dominance qui est donnée de fait à l'industrie des pesticides, ça c'est sûr. Et après, qu'on va essayer de faire en sorte de satisfaire un peu les apiculteurs, mais au final, ce qui est vraiment...
C'est quoi important. C'est on échelonne, on dose, comment on...
Ouais, alors eux, ce qu'ils font, c'est... par exemple, il va y avoir un truc que j'ai un peu vu, c'est une espèce de catégorie nouvellement créée qui s'appelle la pleine floraison. Donc ça, c'est pour le colza, où c'est là où il y a le plus de problèmes, ouais. Parce que c'est une plante très, 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 très mellifère, où les abeilles adorent aller, parce qu'en plus, c'est jaune, donc elles sont prêtes à faire des kilomètres pour aller chercher du colza. Et en fait, ils vont essayer d'inventer ce truc de pleine floraison en disant les traitements sont interdits pendant le stade de la pleine floraison. Et on a le droit de traiter avant et après, sauf qu'en fait, cette pleine floraison n'existe pas chez les colzas. En fait, le colza, c'est une plante qui fleurit,
jaune, hein.
C'est échelonné. Donc en fait, du début de la floraison à la fin de la floraison, on a grosso modo, bon évidemment, sur les deux premiers jours et les deux derniers jours, c'est moins le cas, mais on a quasiment le même nombre de fleurs qui sont ouvertes à l'hectare. Et en fait, oui, ils vont essayer de trouver un petit moment où c'est interdit, mais ça tue les abeilles de toute façon. Y a un truc. Ouais. Donc, par exemple, ça, c'est un truc qu'ils vont essayer de faire pour concilier les intérêts. Après, il y a aussi des questions d'horaire, ils vont essayer de traiter après 17h, mais en fait, c'est des trucs qui ne sont pas respectés.
En tout cas, la donnée de base, c'est qu'on traite.
Ouais,
c'est la donnée de base.
Ils n'ont jamais remettre ça en question. Ouais. Et même, clairement, parce qu'il existe aussi des commissions où il n'y a que les agriculteurs avec les services de l'État. Ils se mettent d'accord déjà sur le principe. Ouais. Et après, ils intègrent les apiculteurs où ils vont essayer de concilier un peu, tout en disant, de toute façon, les apiculteurs, c'est tellement des radicaux qu'on ne peut rien tirer d'eux et qu'évidemment, ça ne sert à rien de discuter avec des hystériques comme ça. Autant pas en discuter. De toute façon, ça ne se fera pas comme ils le veulent.
Peut-être là, en passant à une question un peu plus, du coup, on va dire ce qui se passe maintenant actuellement, c'est que mine de rien, les apiculteurs aussi transforment leurs pratiques. Eux aussi, ils vont se mettre à déplacer leurs ruches, ne serait-ce que d'abord peut-être d'une première façon, parce que s'ils ne les déplacent pas, les abeilles meurent. Et même, ils sont tenus responsables. C'est un truc que j'ai cru comprendre.
Ouais, dans les textes apparaissent. En fait, au fur et à mesure que la législation va se mettre en place, en fait, il va y avoir de plus en plus de clauses que les apiculteurs vont devoir respecter pour... pour attaquer les agriculteurs qui feraient des traitements au moment où c'est interdit. Et notamment, il va y avoir la clause qu'en fait, ils sont obligés, pendant le traitement, de transhumer leurs abeilles, donc de les déplacer ou alors de les fermer. Mmh. Et ce qui, en fait, est très compliqué à mettre en place parce que les apiculteurs, à ce moment-là, donc je le disais tout à l'heure, c'est souvent des amateurs, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vivent donc des ruraux. Et en fait, ils ne vont pas avoir juste les moyens... physique de déplacer la ruche ou de les fermer parce que c'est des ruches, souvent encore des vieilles ruches, pas encore des ruches modernes comme on les connaît à cadre, enfin les carrés là qu'on, à cadre, qui peuvent être fermés, mais juste en fait s'ils ferment, ça tue les abeilles.
Bien sûr. Et du coup, c'est à eux de prendre les devants, c'est ça qui est ouf quoi.
C'est à eux de prendre les devants, sinon juridiquement ils peuvent pas aller se plaindre quoi.
Et toi, Robin, tu dis que de leur côté, les agriculteurs aussi changent leurs pratiques et commencent à développer une sorte de service de pollinisation ou même de façon artisanale, mais qu'eux-mêmes, en transhumant, ils déplacent leur cheptel au gré des besoins ou...
Ouais, bah, déjà par rapport au premier point, juste une parenthèse, il faut remarquer que l'apiculture, c'est sans doute la seule filière où on va mettre le doigt sur « attention, les abeilles meurent » et c'est pas les apiculteurs qui meurent. Et ça, la critique, c'est tout le temps, on a la peur de la perte des pollinisateurs, mais jamais on va voir, c'est la perte d'un métier à venir, c'est la perte... Non, c'est les abeilles.
C'est un service.
Ouais, c'est un service. Ça, je pense, et du coup, c'est vraiment instituer le rôle de pollinisateur. Après, c'est sûr que l'apiculture, depuis... ça serait difficile à dater, mais depuis plusieurs décennies, elle se... entre guillemets, elle se rapproche de plus en plus des autres filières agricoles. C'est-à-dire qu'il y a aussi des questions d'intrants, il y a aussi des questions de traitement sanitaire, il y a des pressions économiques sur la filière, il y a des investissements. Les exploitations... Donc déjà, on a vu une spécialisation où avant, toutes les fermes avaient des ruches. Maintenant, c'est vraiment des exploitations apicoles à part entière qui se mettent en place.
C'est une activité spécialisée, donc.
Qui est une activité spécialisée et qui, elles-mêmes, vont encore se respécialiser entre ceux qui vont s'axer sur la... l'aspect juste génétique, on a seulement des producteurs de rennes dans certains pays, surtout les pays scandinaves. On a du miel, forcément, la majorité sont spécialisés miel. On a gelée royale, on a pollinisation. Donc là aussi, on voit une spécialisation au sein même de la filière apicole dans le cadre des professionnels, professionnels qui ont environ plus de 150 ruches. C'est pour dire que quelqu'un est professionnel, c'est plus de 150 ruches. Ouais.
Et là, c'est une activité, pour eux, c'est leur activité principale et unique. C'est pas quelque chose d'à côté, c'est...
C'est vraiment leur exploitation, c'est leur métier. Et c'est là où, par exemple, maintenant, pour faire du miel, on va vraiment se mettre à faire de la transhumance.
Ouais.
Donc ça, c'est assez connu.
C'est assez connu. Vas-y, explique-nous, parce que nous, l'auditeur parisien, il ne sait pas qu'on transhume les abeilles. Je ne savais pas avant-hier.
Tout simplement, c'est-à-dire que quand on a une grosse exploitation, on a forcément un gros camion, des grosses remorques. Et on ne peut pas se limiter forcément... à son territoire et aux fleurs que le territoire où est l'exploitation nous procure. Donc par exemple, un apiculteur qui est en Provence va aussi faire les centaines de kilomètres pour monter dans le Jura, pour aller poser ses colonies pendant un mois, pour aller faire le mielat de sapin, et puis peut-être qu'après, il redescendra dans le sud-ouest pour faire le tournesol. Ou avant, il aura fait le tournesol, etc.
Donc là, en plus, c'est une activité régionale, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on se déplace pas chez le voisin. Se déplacer largement.
On traverse la France. Exactement.
Et du coup, ça fait qu'il y a un changement quand même assez énorme ce qu'on pourrait appeler l'apiculture, je sais pas si on pourrait dire traditionnelle, en tout cas telle qu'on la connaissait au début du XXe siècle, et ce qui est maintenant une activité commerciale avec des déséquilibres énormes entre les différents exploitants.
Ouais, exactement, c'est une filière...
Tu disais là sur les chiffres qui sont assez fous quand même sur le rapport...
Environ 3% des apiculteurs, donc ceux qui ont plus de 150 ruches, ce sont ceux qui détiennent... Enfin, il y a 3% des apiculteurs qui détiennent plus de 50% des ruches et qui font plus de 50%, voire 60%. Enfin, en tout cas, en 2010-2012, c'était ça, de la production du miel par an.
C'est quand même des déséquilibres assez énormes.
Et c'est un aspect, juste pour préciser, je pense, qui est assez peu connu, c'est sûr, pour l'apiculture, parce que c'est vraiment la filière... L'aspect médiatique actuel de la filière est surtout représenté par les syndicats amateurs qui vont vraiment mettre en avant l'abeille comme sentinelle de l'environnement, etc. Et donc, en fait, on a du mal à penser... Pour nous, l'apiculteur est, comme me le disait quelqu'un, un poète des champs. Ouais. On a du mal à penser que bah non, l'apiculteur, il va aussi nourrir ses colonies, il va faire des traitements, il va... Même si, comparé à l'apiculture, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. Ça reste quand même voilà, une pratique bien différente. Mais oui, ça reste des exploitations à part entière, ouais, agricoles, du 21e siècle. Quoi.
Ouais, 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 d'accord. Ouais. Avec ce que tu me décrivais, même des, une activité assez énorme. Ce que tu décrivais aux États-Unis, c'est des semi-remorques entiers qui se déplacent, notamment, je sais pas, j'avais compris, en Californie, où c'est vraiment. Et d'ailleurs, si y a, et même, on peut le renverser, c'est que s'il n'y a plus cette activité-là, il n'y a plus de pollinisation à certains endroits.
Ouais, exactement. Ouais. Les États-Unis ont la particularité que la filière est vraiment coupée en deux, où on a vraiment des apiculteurs qui sont orientés miel, qui font que du miel. C'est quand même un chiffre d'affaires de 350 millions de dollars. Et il y a aussi des apiculteurs spécialisés en pollinisation qui aussi rapportent un chiffre d'affaires global de 350 millions de dollars. Donc on est vraiment sur les mêmes bases. Et notamment, c'est bien connu, quand on voit des reportages sur l'abeille, la pollinisation, on a souvent le cas des vergers d'amandes en Californie, donc qui produisent, je ne sais plus, 90% des amandes mondiales. Et il y a 90% du cheptel des ruches américaines, des professionnels, qui sont envoyés en Californie au mois de février. Donc c'est vraiment des millions et des... C'est un million... Non, je sais plus, mais c'est des millions de ruches, quoi, pour la pollinisation des amandes. Sans ça, il n'y aurait pas d'amandes.
Putain, c'est ouf. Du coup, là, c'est vraiment une transhumance industrielle sur les États-Unis, des semi-remorques entiers.
Il y a des boîtes spécialisées, c'est entre guillemets des courtiers. Le cultivateur leur passe un coup de téléphone, il me faut 10 000 colonies. Et ce courtier est en charge de les mettre en relation avec des apiculteurs. Et là, c'est vraiment, oui, c'est des exploitations de plusieurs milliers de ruches. Et c'est des semi-remorques qui traversent les États-Unis. Quoi.
Ouais, c'est vraiment taré,
et qui, quoi, après, vont partir dès la fin des amandes, vont monter dans le Dakota, dans l'Oregon, pour faire les arboricultures. Ouais. Donc la pomme, etc. Et là aussi, donc c'est moins gros que les amandes, mais il y a quand même peut-être un million de ruches qui vont traverser.
Ouais. Mais alors là, il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier, c'est que... Au niveau de la saisonnalité, ça change les choses. C'est que l'abeille, ou la ruche plus précisément, son cycle, il est annuel avec une succession des différents cycles floraux et une activité en fonction de la saison et des températures. Là, en déplaçant les cheptels comme ça à travers le pays, ça doit poser quelques problèmes à ce niveau-là quand même. Enfin, comment on gère une ruche dans ces conditions-là?
Ça c'est tout le travail de l'apiculteur. Il y a différentes méthodes. Par exemple, celle qu'on peut dire, c'est il y a la période de l'hivernage où là vraiment la ruche est en pause.
Et ça, ils sont obligés de le faire.
Oui.
S'ils le font pas, la ruche.
L'hivernage c'est vraiment obligatoire. Ouais. Mais par exemple, il y a des techniques où on va mettre en hivernage des ruches avec beaucoup plus grosses ruches avec beaucoup plus un nombre de cadres de couvain, donc un nombre de larves qui vont naître au printemps, beaucoup plus gros. Et on estime que dès février, on aura des ruches assez, assez puissantes.
Ouais. Donc on essaye de réduire cette saisonnalité au maximum, j'imagine, quand même, à ce niveau-là.
On essaye, ouais. Apparemment, il y a des agents, des sortes de phéromones qui vont induire les abeilles pour qu'elles sortent plus tôt. Parce que les amandes, voilà, c'est un cas un peu extrême parce que ça arrive vraiment, vraiment, vraiment très tôt dans la saison. C'est très compliqué à gérer pour les apiculteurs. Ouais. Mais par contre, la manne financière est énorme puisque environ, je crois que la moyenne, c'est entre 160 et 180 dollars la colonie. Mmh. Donc si on en loue plusieurs, c'est un chiffre d'affaires très vite, qui est monumental.
Ouais, d'accord. Voilà. Et alors, l'autre truc peut-être qui est notable, c'est que, bon, donc déjà, ce que tu disais, c'est que les abeilles ne servent plus seulement à faire du miel, mais elles sont un service de pollinisation en soi. C'est-à-dire que vu qu'on a défoncé les insectes, on a aussi défoncé les pollinisateurs. Et il faut, d'une certaine façon, découpler l'activité de production de miel de celle qui est purement d'un service extrêmement utile à l'agriculture, qui est celui de la pollinisation. Et il se trouve que les abeilles n'ont pas tout à fait le monopole de la pollinisation. Et qu'il y a aussi, en parallèle, on pourrait dire, de cette activité particulière qu'est l'apiculture, toute une industrie de la pollinisation qui se met en place aussi. Alors, peut-être plus aux États-Unis qu'en France, encore que tu vas peut-être me démentir, mais... ok. en tout cas, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est que cette nouvelle industrie qui, donc, d'une certaine façon, pallie au manquement de l'agriculture industrielle, enfin, toute...
Ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on pourrait, en fait, réécrire une histoire du développement de certaines plantes grâce au développement
grâce à la domestication de certains insectes, à la mise en place de nouvelles techniques. Rien que pour le cas, juste pour l'abeille, on peut pas penser le développement des vergers, notamment en Californie, au début du siècle, sans des méthodes agronomiques qui commencent à prendre conscience du rôle de la pollinisation, du rôle de l'abeille. Sinon, les vergers monofloraux industriels seraient pas venus.
Donc là, encore une fois, on est très tôt. Dans la révolution agricole, on est dès le début du siècle, en fait.
Et si on part, par exemple, pour un cas 90 ans plus tard, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aux Pays-Bas, donc on cultive la tomate, on va commencer à se dire, il faut qu'on cultive la tomate sous serre en hiver. Donc ça, sur le papier, ça pose pas de problème. Sauf que la tomate a besoin d'être fécondée, enfin pollinisée par le bourdon, qui est l'unique insecte pollinisateur qui peut le faire. Sauf que forcément, si on est en plein mois de janvier, les bourdons, ils sont pas là. Donc en fait, l'idée va être d'adapter la temporalité d'êtres vivants comme les bourdons à celui de la plante. Et c'est là qu'on va... Enfin, il y a des brevets qui vont être posés dans les années 80. Ce qui va donner lieu, en fait, en 88, au début de la commercialisation des bourdons produits en usine, où en fait l'idée, elle est assez simple, c'est qu'on va plonger la reine bourdon dans du dioxyde de carbone, ce qui va faire croire à la reine qu'elle sort de sa période d'hivernage, qu'elle est donc au printemps, ce qui est totalement faux, et donc elle va commencer à se mettre à produire sa colonie. Et là, très vite, donc la méthode est brevetée au départ par des Belges, après il y a une grosse boîte hollandaise qui va aussi se mettre sur le marché. Là j'ai revu très rapidement les chiffres. C'est en 88 le début de la commercialisation de ces bourdons. En 93, on estime à 80% des producteurs de tomates aux Pays-Bas qui utilisent déjà ça. Il faudra quelques années pour que ça soit entièrement généralisé. Maintenant, si on mange une tomate, n'importe qui mange une tomate a été fécondé par des bourdons de ce type, et le commerce de bourdons, il y a plusieurs usines à l'échelle mondiale, c'est mondial.
Là, ce que tu nous racontes est vraiment absolument phénoménal. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas s'imaginer, enfin, moi, je ne m'imaginais pas du tout, même en me promenant, que ce soit à la campagne ou quoi, d'imaginer que les bourdons sont actuellement produits en usine et leur cycle est régulé par un produit chimique sur lequel il y a un brevet et qui pallie au fait que la plante, elle doit être produite toute l'année. En fait, ce que tu racontes est absolument taré sur la façon dont on imagine l'agriculture contemporaine. C'est vraiment fou, en fait, quoi.
Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment le fait, notamment, que la plante va être centrale et qu'il faut adapter tout le reste, ouais. Et notamment la pollinisation. Et donc, pour d'autres cultures, on va avoir le même phénomène de domestication dans les années 60, 70, pour l'osmie, qui est une petite abeille solitaire, ensuite pour la mégachile, qui est aussi une abeille solitaire, qui va accompagner toute la pollinisation de la luzerne, quoi. Donc, ce qui sert pour la nourriture du bétail. La mégachile, c'est l'insecte le plus produit industriellement, enfin, en tout cas, le pollinisateur à l'heure actuelle. Voilà, et ce qui va aussi, il faut quand même le rappeler, ce qui va causer du tort, entre guillemets, aux apiculteurs, puisque ça crée clairement une concurrence, ouais. Notamment avec certains agriculteurs, enfin, cultivateurs. Pour eux, c'est beaucoup plus simple de commander des ruches de bourdons sur Internet que d'aller, entre guillemets, s'enquiquiner avec un apiculteur qui peut gueuler pour les traitements. Ouais. Parce que là, du coup, il y a...
C'est de l'insecte jetable, là.
Ouais, clairement. Si on va sur le terrain, on va rencontrer autant les agriculteurs, les apiculteurs, même ceux qui utilisent les ruches de bourdon, vont dire, mais ça, pour moi, c'est pas vivant. C'est juste un objet, c'est une boîte. Ça se présente vraiment sous la forme un peu comme une ruche.
Décris-nous un peu ce que c'est qu'un bourdon produit en usine, là. Il faut que tu nous racontes, parce que c'est taré, quoi.
En fait, ça se présente tout simplement une boîte en carton. Ça fait penser à une boîte de chaussures, quoi. Forcément, le nom de l'entreprise dessus. Il y a deux petits trous pour l'entrée et pour les sorties des bourdons. Et puis, quand on ouvre cette boîte en carton, à l'intérieur, en fait, les bourdons sont encagés dans une sorte de boîte en plastique. Dessous, il y a du liquide qui leur sert pour se nourrir en partie. Un liquide rougeâtre, quoi. Enfin, voilà, c'est... Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on m'a... Les industriels m'ont présenté ces ruches lors d'une visite dans leur entreprise pour un entretien. Et en fait, si vous allez voir un apiculteur, quand il va ouvrir la ruche, il va vous parler des abeilles qui sont à l'intérieur. Moi, on ne me parlait pas des bourdons, on me parlait de l'objet. Ouais. Ah, voilà, cette année, on a introduit telle innovation, on a des bandes réfléchissantes parce que dans les serres éclairées, lumière artificielle, les bourdons vont mieux se repérer. Donc, on vous parle de l'objet technique avant l'insecte, en fait, avant l'être vivant qui est dedans. Ouais. Et vraiment, sur le terrain, c'est du jetable, quoi.
Ce qui veut dire que du coup, en plus, il y a des brevets sur ces insectes-là, il y a des innovations qui sont faites sur la façon de réguler leur cycle, sur la façon de les présenter. C'est quoi les trucs concurrentiels un peu, c'est taré quand même.
Ouais, maintenant ça a l'air assez fixé. Je sais pas s'il y a encore des énormes avancées Cela, moi, les avancées qu'on me présentait, c'était vraiment d'avoir mis des bandes réfléchissantes pour que le bourdon se repère. Bon, c'est pas des trucs très massifs.
Ouais.
Après, par contre, peut-être qu'à l'avenir, il y aura le développement encore de nouveaux insectes. Et notamment, il y a des stratégies de préservation de la biodiversité depuis les années 70. C'est préservons la biodiversité des pollinisateurs. Peut-être que nous trouverons à l'intérieur un pollinisateur qu'on pourra domestiquer dans le futur parce qu'il s'accordera avec cette plante qu'on n'a pas encore trouvée.
Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a certains problèmes qui se posent, c'est que certaines plantes ont un pollinisateur unique. Et c'est tout le problème de la vanille, c'est qu'il faut la polliniser à la main parce que l'insecte pollinisateur a été perdu et on l'a pas retrouvé, c'est ça le problème en fait.
Bah ouais, la vanille, c'est le cas le plus connu. Ouais.
Et on pourrait dire ce qui menace d'une certaine façon certaines cultures, ça pourrait être ça. Enfin,
la chute. Après, j'ai pas connaissance là d'énormes cultures agricoles qui soient dépendantes que d'un seul pollinisateur. Ouais. Sachant que maintenant, les stratégies agricoles de gestion de la pollinisation vont vers l'introduction d'une pluralité de pollinisateurs. Donc, par exemple, on va appeler l'apiculteur pour qu'il vienne nous poser des ruches. Ouais. Et puis, on va aussi introduire des ruches de bourdon. Et puis, on sera bien content qu'il y ait un bosquet à côté qui va introduire d'autres abeilles solitaires. Puisque voilà, une plante, elle produit des fleurs. Et les fleurs, elles ont toutes des morphologies différentes. Ouais. Et donc, l'idée, mieux on gère la pollinisation, c'est-à-dire mieux on va insérer dans la culture une diversité de morphologie buccale d'insectes. Et c'est aussi là où il y a des références à la biodiversité protégée pour avoir toujours plus une diversité d'agents pour augmenter. Enfin, il y a une vaste perspective de rendement derrière tout ça. Quand même.
Bien sûr, et oui, justement. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement avant de clore l'émission sur qui sont ces industriels ? C'est quoi ces industries de l'insecte et des pollinisateurs ? C'est fou quand même qu'on imagine qu'il y ait des usines d'insectes. Alors tu dis que c'était aux Pays-Bas, mais peut-être comment ça se présente ? C'est quoi ces choses-là, ces entités-là ?
Au départ, c'est des entités c'est vraiment des entreprises qui ont tout le langage de l'écologie, parce qu'à la base, ils sont en gestion intégrée. De lutte contre les parasites. Donc en fait, à côté des bourdons, ils vont produire des araignées.
Ils produisent aussi les prédateurs.
Ouais, ils vont produire, par exemple, si on a des pucerons, bah, eux, ils vont fournir en sachet des coccinelles, ils vont fournir des acariens. Donc en fait, ils produisent toute cette tonne d'insectes. Voilà, après, c'est des industriels, entre guillemets, assez classiques. Moi, j'ai pas pu visiter leurs usines, puisque, enfin, pour l'Europe, c'est Slovaquie et Belgique. Moi, j'ai juste rencontré les relais en France. Y a assez peu d'infos en fait sur ces entreprises quoi.
Pour savoir parce qu'on estime, avant que tu me le dises, je ne savais pas qu'il y avait des industriels produisant des bourdons quoi. Et est-ce qu'ils ont un lien avec les semenciers ou pas du tout ou...
Pas vraiment. Non, pas plus que ça. Ça va dépendre, mais ils ont clairement des liens avec les semenciers parce que les semenciers leur commandent énormément de...
C'est eux qui ont besoin notamment de leur service.
Ouais, de ruches. Mais après, dans tous les programmes de recherche, de maximisation de la pollinisation, non, les semenciers vont plus s'allier avec l'INRA et avec les apiculteurs. Ouais. Ils vont plus aller du côté de l'abeille que des autres pollinisateurs.
Mais alors peut-être, là, vous deux, on va faire un peu de prospective catastrophique, mais si on pousse un peu la logique de réduire l'ensemble des insectes pollinisateurs et l'abeille en particulier à un ensemble de services rendus, que ce soit la production de miel, mais surtout celui de pollinisation. Vous avez certainement tous les deux en tête l'épisode de Black Mirror sur la pollinisation, qui est assez dingue. On en est où sur ces questions ? Alors, donc, pour les éditeurs qui ne l'auraient pas vu, donc c'est donc une firme industrielle qui produit des drones qui remplacent les abeilles pollinisatrices et qui a le monopole de la pollinisation dans le monde, puisque si ces abeilles meurent, alors en gros, il n'y a plus de pollinisation et on est prié de disparaître. Donc vous en êtes où là, vous, tous les deux là dans ces prospectives, quel est le futur qui nous attend dans 15, 20 ans là, on en est où là? Allez-y allez-y.
Bah, j'y vais. Il y a déjà les robots pollinisateurs qui sont déjà...
Donc ça, c'est pas le futur, ça?
Non. Ils ont commencé à les faire. Harvard a un projet, ça s'appelle RoboBees. Donc les abeilles robots, ils sont déjà arrivés à les faire voler. Par contre, clairement, ça coûte très cher. C'est très compliqué à mettre en place. Donc ça reste, pour le moment, très hypothétique. Et moi, Enfin, pour le moment, je reste assez positif. Enfin, je me fais pas trop de soucis parce que je pense que les apiculteurs, ils vont pas laisser faire ça. Ils ont quand même des forces de frappe dans certains sens. Voilà. Il y a des marchés. Pour le moment, en France, il y a un marché de la pollinisation qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'émerger. Donc, les apiculteurs, ils gagnent leur position. Mmh. Donc, je me dis, ils vont pas trop. Ça reste assez lointain pour moi.
D'accord.
Peut-être que je me trompe.
Ouais. Après, en même temps, aux États-Unis, il y a le syndrome d'effondrement des colonies.
Ah, c'est quoi, vas-y, dis-nous.
En fait, en gros, c'est. Je ne suis pas très calée dessus, mais assez concrètement, c'est 30%, plus de 30% des ruches qui disparaissent chaque année.
Ah, c'est énorme.
Au minimum. Ouais,
qui doivent être remplacés.
Qui doivent être remplacés. Ils arrivent au printemps et il y a 30% des ruches qui sont mortes.
C'est taré.
Qui doivent être remplacées. Et voilà, donc ils cherchent encore les causes. Et bon, après, ce qu'on voit, par exemple, c'est que là, en ce moment, les abeilles disparaissent massivement en France. Elles sont de plus en plus faibles. Il faut remplacer de plus en plus fréquemment les reines parce que sinon, elles peuvent pas tenir le choc. Mmh. Et en même temps, face à ça, il y a toujours les lobbies des pesticides. Donc là, j'ai relu un rapport de Syngenta il y a pas longtemps qui, eux, en gros, clairement, les néonicotinoïdes, donc la classification, enfin, une énorme classe de pesticides qui est quasiment la plus utilisée en France, qui est responsable... qui est vraiment dite comme la responsable de la mort des abeilles, Syngenta, eux, font des lobbies pour expliquer qu'en fait, non, c'est pas les pesticides, qu'il y a y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la mort des abeilles. Et en fait, clairement, par exemple, à l'UE, c'est des lobbies qui ont énormément, énormément de pouvoir et on n'est pas du tout prêts de voir la mort des abeilles s'amenuiser. Enfin, c'est un truc qui se généralise et vraiment c'est massif quoi.
Et ce qui est intéressant, parce que vu que là on parle de Syngenta, c'est que de l'autre côté, Syngenta va faire va mettre en place des programmes, ça s'appelle le plan jachère apicole. Donc l'idée c'est de mettre aux alentours des champs que les agriculteurs plantent des fleurs sauvages entre guillemets pour créer des ressources et de l'habitat pour les insectes pollinisateurs. Et là encore, c'est des vraies gestions de la biodiversité, mais dans les perspectives de rendement. Donc là encore, on est encore sur une contradiction où ces personnes vont mettre en place tous les néonicotinoïdes. Et de l'autre côté, font des plans. Et c'est pas simplement, enfin, faut pas les prendre comme du simple verdissage. Mmh. Ouais. C'est vraiment des stratégies de rendement aussi, quoi. Faut pas casser la. Enfin, il y a une critique à porter.
Non, c'est pas que de la peinture verte, c'est qu'eux-mêmes, quand même bien conscients, j'imagine, que sans certains palliatifs, tout s'effondre. On imagine bien qu'ils sont.
C'est toujours la notion de seuil, quoi. C'est jusqu'où on va, où est-ce qu'on s'arrête.
Ouais, bien sûr. Bon, je pense qu'on doit pouvoir terminer l'émission sur ça. Donc c'est un avenir pas forcément reluisant, mais en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses que j'imaginais pas, à la fois dans les structures et dans les quantités et tout ça. Je trouvais ça assez fou. Peut-être redonner quelques. Alors, on a évoqué donc Rachel Carson, Le Printemps Silencieux, qui est quand même le bouquin qui en 62 a fait. Une sorte d'alerte mondiale qui a été mise à transmettre en France, tout ça, qui a fait. Peut-être vous avez. Je sais pas si vous avez quelques autres petits éléments ou. Je sais pas.
Quelqu'un qui est bien sur les pesticides et sur l'histoire des pesticides que j'aime bien, c'est celui de Fabrice Nicolino et François Verret qui s'appelle Pesticides, révélation sur un scandale français.
Ouais.
C'est un peu. Le ton est assez ironique, des fois assez chiant à lire, mais qui. Qui a quand même le mérite d'offrir un panorama historique qui est vraiment intéressant sur comment ça se fait qu'en France on soit le quatrième pays consommateur de pesticides dans le monde alors qu'on n'est quand même pas le plus gros. Et voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on n'est pas prêt d'en sortir. C'est assez intéressant.
D'accord. Bon, en tout cas, on est très content de vous avoir reçu à l'émission. Je pense que c'était assez intéressant. On nous dit aux auditeurs. On se retrouve nous le mois prochain, ce sera donc janvier, donc parce qu'on enregistre en décembre, alors c'est bon voilà. Mais du coup on sera en janvier, donc on se retrouve en février. Et on sait pas encore sur quoi on fera le sujet, mais en tout cas on vous souhaite de vous remettre bien de vos fêtes. Salut tout le monde.
Dun dun dun. disappear.